Amis de Radio Occitanie et de la Poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le beau temps de l'automne est revenu sur notre belle région de Toulouse et de l'Occitanie. Le beau temps de l'automne fait qu'on voudrait, à travers la qualité fraîche et bleue de l'air et parmi les volumes de feuillage qui bougent sobrement lenteur et la saison qui scintille, installer le théâtre des mots qui conviendrait à la parution dans ce paysage recommencé tous les automnes de tes joues d'enfant, de ton pas qui a franchi le temps, nous dit J'âme sacrée dans son recueil, sur son livre « Figure qui bouge un peu » et autres poèmes, avec une préface d'Antoine Aimaz dans la collection Poésie Gallimard. C'est « J'âme sacrée » auquel nous allons consacrer cette heure ensemble. « J'âme sacrée » qui est née en 1939 à la ferme, dans une ferme familiale dans la Vendée, et dans un village qui s'appelle Cogou exactement, à Saint-Hilaire-des-Loges. Il va être élève à l'école primaire de Coulonges-sur-Lautise, dans les Deux-Sèvres, puis élève au collège François Viette à Fontenay-le-Comte et à l'école normale d'instituteurs de Parthenay. Alors on va retrouver cette imprégnation d'enseignants et d'instituteurs, donc on va le retrouver dans ses poèmes. Alors il a été instituteur, puis instituteur itinérant agricole avant son départ pour les États-Unis en 1965, après son mariage. Alors là, aux États-Unis, il va y vivre et obtenir un doctorat américain au Boston College, à Boston. Et il va animer des séminaires lors de ses jours en France. Il a, par exemple, la direction des programmes de Junior Year Abroad. Et il va pratiquer des années sabbatiques. Bon. C'est un enseignant en langue et littérature française dans l'université américaine de Smith College, de 1972 à 2001. On va le retrouver, nous, lecteurs de poésie, dans les revues Oracle, puis dans la revue Triage des éditions Tarabuste qui va être un de ses éditeurs favoris. Et puis, J'âme sacrée va acquérir très vite une grande notoriété. Il va avoir le prix Broquette-Gonin de l'Académie française. C'était déjà en 1972. Le prix Obsidiane en 1983. Le prix Apollinaire de notre ami Jean-Pierre Siméon, dont il est actuellement le président, en 1988. Puis le prix Antonio Vicaro en 1999. Et le prix Max Jacob en 2010. Il va voyager beaucoup en Europe, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Maroc, en Tunisie. On va parler de ses voyages au Maroc tout à l'heure. Et bien entendu, aux États-Unis, puisque c'est là qu'il vivait et qu'il travaillait. J'âme sacrée est membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse et il vit à Montpellier. Voilà, J'âme sacrée, bonjour.
Oui, bonjour. Merci.
Merci encore, c'est nous qui vous remercions d'être avec nous encore Radio Occitanie pour parler de votre œuvre qui maintenant, je regardais, prend vraiment de plus en plus de volume. Nous allons parler il y a 15 jours de vos deux derniers recueils. Nous allons parler aujourd'hui essentiellement de deux recueils. Le premier, c'est « Des animaux sont avec toi depuis toujours ». Aux éditions Ancrage et Co, dans la collection Voix de chant, sur des illustrations de Guy Calamusa. Et puis, le livre que vous avez présenté ici à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, avec Christian Torel et...
Jamel Mascache.
Voilà, Jamel Malika et notre poète d'ici,
Yves Charnay,
qu'il m'excuse de ce trou de mémoire. Oui. Donc, J'âme sacrée, une fin d'après-midi continuée, trois livres marocains avec une postface qui est véritablement d'une pédagogie incroyable, une postface de Serge Martin aux éditions Tarabuste.
Merci bien.
Alors, J'âme sacrée, C'est Gaston Bachelard qui a dit que connaître, c'est d'écrire pour retrouver, et que pour un artiste, connaître, c'est d'écrire pour sentir. Et je me disais en vous lisant, en particulier, mais on y reviendra sur une fin d'après-midi continuée, cette façon de décrire, c'est aussi une façon de décrire pour sentir, et même pour vous, pour sentir le poème. Et on a l'impression, à vous lire, que ce soit d'ailleurs dans les deux livres, Des animaux sont avec toi depuis toujours, comme une fin d'après-midi continuée, que le poème est toujours en train de se regarder un peu, dans sa fabrication, que vous allez connaître, d'écrire donc pour retrouver ce que vous avez connu, mais qu'en même temps que vous avez cette description, vous en avez l'immédiat sentiment, ressenti, et ce ressenti, ça va être le regard que vous allez poser vous-même sur votre propre poème. Voilà.
Oui.
Et ça crée effectivement une impression qui est une impression unique, je crois, actuellement dans la poésie contemporaine. Et cette simultanéité du ressentiment, mais en même temps cette distance que vous arrivez malgré tout à voir par le comment se fabrique le poème, bon, ça donne une force au poème, certainement, à mon avis, qui vous échappe d'ailleurs. Hein.
Voilà.
Est-ce que vous êtes, vous pensez que là aussi, connaître, c'est d'écrire pour sentir, que cette formule de Gaston Bachelard, hein, Gaston Bachelard, il était obsédé quand même par ce que fabriquaient les poètes. Hein. Est-ce que cette formule vous est applicable?
Écrire pour sentir, je ne sais pas, on pourrait le mettre à l'envers, sentir pour écrire.
Oui.
Mais effectivement, je pense bien que dans le moment d'écriture du poème, il y a à la fois un rapport à ce qui vit à côté de vous, devant vos yeux ou dans votre souvenir, etc. Et également à la matière même du poème, c'est-à-dire aux mots, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne peuvent pas faire, etc. Donc oui, écrire un poème, c'est surtout ressentir aussi, en même temps qu'on ressent le monde, ressentir qu'on est en train d'écrire un poème, oui. Ouais.
Alors nous allons parler de ce livre « Des animaux sont avec toi depuis toujours », avec illustrations de Guy Calamusa, aux éditions Ancrage. Et dans ce recueil, il y a un vers que je voudrais retrouver. C'est à la page 10. Alors j'y vais, pardon. À la page 10. Et vous dites, dans l'apparente familiarité de tout, l'apprentissage de la solitude.
Oui.
La solitude, alors là on parle des animaux, etc.
Oui.
Et ça arrive, ce thème, qui est un thème lancinant quand même chez vous, en même temps aussi, qui est un thème un peu, qui peut être un thème aussi quand même assez mélancolique, de la solitude, l'apprentissage de la solitude.
Oui.
Est-ce que le poème aussi fait l'apprentissage de la solitude?
Oui, la solitude, c'est ce thème, ce mot revient, est revenu de plus en plus souvent dans mes livres, effectivement. J'ai un dernier titre qui s'appelle « Figure de solitude ». Un des premiers s'intitulait « La solitude au restaurant ». Il doit y en avoir d'autres, là je les oublie un peu. C'est effectivement un mot, la solitude, qui, en tous les cas chez moi, je crois, accompagne toujours, au contraire, le désir de son contraire, c'est-à-dire le désir d'être avec les choses, avec les autres, avec les mots, etc. Et très vite, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à être avec les autres ou avec les choses, avec le monde. Et donc, effectivement, l'impression d'une solitude toujours grandissante. Et Et c'est pas par hasard, on sait bien que qu'au final, ça sera la plus grande des solitudes, c'est-à-dire la disparition dans nulle part. Voilà. Oui. Donc c'est pas la solitude tout de suite, c'est toute seule, c'est la solitude avec l'espérance d'être avec, hein, en somme.
Donc c'est une solitude qui appelle à l'espérance.
Oui, c'est la solitude qui résulte du fait que qu'on n'est jamais comme on pourrait le croire avec les autres, même quand on est avec les autres de la façon la plus intime.
Oui, oui.
Je crois que tout le monde fait cette expérience-là et que quand on ne la fait pas, j'irais jusqu'à dire qu'on s'illusionne un peu.
Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Comme on dit, se mettre à la place de l'autre est quelque chose quasiment d'impossible, quoi.
Oui, voilà. Je crois que quand on croit être avec l'autre, c'est qu'on invente l'autre à sa convenance, souvent, quoi.
Oui, oui. C'est Sylvia Plath qui dit que les rapports des hommes entre eux sont plutôt œuvre de l'imaginaire.
Oui, ben, beaucoup. Voilà,
je crois qu'elle a dit ça. Oui. Alors, nous allons revenir. Des animaux sont avec toi depuis toujours.
Oui.
Il y a là, donc, votre familiarité avec les animaux, mais un regard que vous jetez sur les animaux, une contemplation des animaux. Alors, cette contemplation, là aussi, hein, elle est parallèle à la contemplation du poème qui se crée. D'ailleurs, il y a toujours ça, hein.
Ben oui, oui, ça c'est peut-être qu'on pourrait me le reprocher.
Ah non, 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 au contraire, surtout pas. Surtout, ne changez surtout pas ça.
Oui, oui. Il est difficile d'écrire un poème sans penser à ce fait qu'on est en train d'écrire un poème. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ça va? À quoi ça sert? Voilà. Hein, donc, oui, ça revient toujours à un moment ou à un autre pendant le moment d'écriture.
Oui. Il y a une interrogation permanente.
Oui, oui.
Il y a une interrogation permanente. Alors, dans ce recueil, des animaux sont avec toi depuis toujours. Hein, c'est une interrogation permanente sur la présence et le sens à donner aux animaux. Et cette interrogation, elle rejoint complètement l'interrogation sur le sens et la fabrication du poème, c'est-à-dire quel est le sens aussi du poème.
Oui, 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 en effet, oui.
Alors, il y a chez vous une grande familiarité des animaux qui est due au fait que vous avez passé votre enfance dans une ferme, hein, en Vendée. Alors, j'ai retrouvé, moi aussi, j'ai passé les vacances dans une ferme de l'Ariège, dans les années 50, c'est-à-dire une époque où les fermes ressemblaient beaucoup plus à ce qui existait au 19e siècle. Il n'y avait pas de tracteur, par exemple. Ça n'existait pas, le tracteur.
Oui.
On allait labourer avec une paire de bœufs qu'on habillait, etc. J'ai connu ça. Et donc, c'est vrai que quand on a connu ça, on a un rapport avec les animaux, certainement, quand même, assez particulier. Et moi, je me suis retrouvé là dans ce que vous dites, dans ce texte. Si vous voulez.
Oui, mais oui, on a un rapport. Bien sûr, on a un rapport. On aime les animaux. En même temps, on a des colères contre eux parce que il y a plein de choses qui ne font pas comme vous voudriez qu'ils le fassent. Par exemple, quand on laboure ou qu'on fait un autre travail, etc. Donc, c'est un rapport sans doute qu'on tire un petit peu vers l'humain parce que on ne sait pas très bien quel rapport les animaux, eux, ont avec nous. Hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans cette impression de familiarité qu'on a d'être avec eux, on s'aperçoit aussi très rapidement qu'ils nous échappent, qu'ils sont ailleurs, est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils ce qu'ils ressentent, on ne sait pas, etc. Donc voilà, c'est très instructif cette vie avec les animaux.
Oui. L'anthropomorphisme, il faut arriver à s'en dégager. Personnellement, je ne sais pas faire ça.
Ben, oui,
j'ai tous les animaux que j'ai eus, je les ai considérés comme des personnes.
Oui.
Parce que, mais parce que je ne sais pas faire autrement.
Oui.
Et vous, en vous lisant, vous expliquez que, bon, c'est un leurre, effectivement.
On se leurre, mais je fais pareil aussi, quand
c'est
même.
Un leurre tellement agréable. Hein. Moi,
oui.
J'ai eu une chatte pendant 27 ans. Elle est morte à 28 ans. J'ai eu à un an, déjà.
Oui.
J'avais des rapports avec elle, qui étaient des rapports que je lui parlais sans aucune différence. Et même, je vais vous dire, j'ai deux tortues maintenant, je leur parle pareil.
Oui. Pareil. Ben oui, on et leur donne un nom aux animaux, oui. Souvent pareil. Hein, c'est, ils finissent par reconnaître un bruit qu'on fait en prononçant ce mot et peuvent y répondre, mais...
Le temps de la voix.
Jamais très sûr, quoi. Oui.
Non, jamais. Voilà.
Oui.
France.
Oui, c'est la solitude qui résulte du fait que qu'on n'est jamais comme on pourrait le.
Est-ce qu'on
Moi,
peut...
j'essaie de ne pas trop leur parler, en fait.
Ah oui.
Mais d'être avec un peu, si je peux, quoi.
Oui. Il faut les deux. Oui.
Oui.
Est-ce qu'on
voilà, vous voulez que je dise
voilà, on va
un
vous
peu
écouter.
De ces animaux-là,
on va vous
de
écouter.
Mots
oui.
Hein, voilà, hein, parce qu'effectivement, dans le livre, ce ne sont plus de vrais animaux, ce sont des phrases, ce sont des sonorités, etc. Voilà. Une première séquence, c'est « S'il t'accompagne vraiment hein, », c'est pour répondre à ce que nous venons de dire. Oui. « Dès que l'homme est là, semble-t-il, des animaux l'accompagnent. » On ne sait pas si d'emblée dans la violence ou dans le vivre ensemble que permet l'indifférence. Et si quelqu'un dessine un bison à Lascaux, lequel accompagne mieux l'autre? Mais plus en amont, dans le temps, ces bêtes que les humains n'ont pas connues, qui n'existent plus, si le pas d'un dinosaure, ses façons de regarder, sont jamais dans nos jambes rêveuses, dans nos façons de voir le monde. Que dessine un peintre aujourd'hui avec des animaux qui l'égarent dans le mot forme et pas trop de couleur? Des animaux sont avec toi depuis toujours. Le chien Bob dans les parties de l'Aubraille. Si tu le suis ou le contraire, un peu plus tard, les vaches, chacune avec son caractère. La tranquille Blanchette, la charmante, l'insupportable Muscadine, sa gourmandise. Ces façons d'être Torah pour monter les autres, t'apprenais quoi en la voyant faire? Ardente, la jument, plaisir accru sur son échine, puis dans le noir de l'écurie, son œil si grand. Animaux familiers, comme soudain, si te voilà nu parmi eux, les vois-tu? Leur museau tendu vers ton corps inquiet, qui se demande. Tu sais peut-être comment ton chien ou ton cheval vont répondre aux gestes que tu as, mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Les perdrix partaient toujours dans un brusque bruit d'ailes entre luzerne et le haut d'une haie. Mon fusil de piètre chasseur lâchait ses deux coups derrière l'envol déjà disparu. Me fallait surprendre les oiseaux piétant droit devant sur un chaume. Après le bruit du fusil, je ne ramassais que du silence. Les animaux que tu as connus, tu les appelais par leur nom, et les voilà qui arrivent, museau de cheval à la barrière, ou la lenteur des vaches venues du fond du pré pour s'en retourner à la ferme. Le chien qui les accompagne, comme tu lui dis de faire, la compagnie des animaux, comme celle de tes élèves dans la cour de l'école, la compagnie des gens tous les jours, dans l'apparente familiarité de tout, l'apprentissage de la solitude. Parler des animaux, si c'est pas seulement parler comme on parle tout seul, ni à soi ni aux autres, qui ça les autres, on entend quel goret gueulant parce que papa n'a pas su l'assommer, quelle chatte griffante après l'amour, quelle rumination lente pour écrire et remâcher un poème. On n'entend rien, parler, dessine des formes de mots. Je vais lire la dernière séquence du livre, ce qu'on écrase dans un livre. Le bruit que font les animaux dans le monde meugler, hennir et braire, barrir, couiner, miauler, rugir, japper, gronder, etc., et tout le tintouin des oiseaux. Et l'animal à deux pattes, pas forcément gros cerveau, l'homme qui gueule, crie, parle, bavarde et pérore, tout le bruit que fait le vivant du monde, et ce poème qui s'ébroue dans son silence. Tant de voitures, de camions lui ont roulé dessus. Petite route de campagne, c'est juste en face d'une jolie maison de plantation en Louisiane, grands arbres qui l'encadrent, et la clôture basse en bois peint en blanc. Le tatou mort n'est plus qu'un dessin de tatou gravé dans le bitume, un dessin de la vie gravé dans la mort. Il n'y a ni rêve ni rien dans cette empreinte qui fut dessinée sans que personne y pense, et dans le hasard d'une rencontre d'un animal avec la modernité humaine. On ne sait pas très bien non plus à quoi pense un poème en racontant ce qu'il a vu, en racontant ce qu'il raconte. À quoi ressemblerait ma tête, mon allure d'homme, si mes bœufs dessinaient en ruminant de la luzerne ou du foin? Animaux plus ou moins familiers, j'ai peut-être cru leur parler, je n'ai pas oublié les noms qu'on leur donnait, leurs gestes de peur ou comme de confiance, caresses, coups de bâton, tendresse ou colère contre leur silence. Je n'ai pas oublié, le poème pourtant n'est plus que du silence. Voilà.
Le bruit du monde, un poème au cheval qui est en sens, ne fait que bouger du silence.
Voilà. Allô?
Oui, je disais, ça termine par le bruit du monde, poème oui. Au cheval qui est en sens, ne oui. fait que bouger du silence.
Oui, en effet, oui, j'ai sauté ces deux vers.
Voilà. Alors, on voit, là, d'abord, vous avez été chasseur, alors?
Comment?
Vous avez été chasseur?
Ah, j'ai été chasseur, c'est-à-dire, j'étais un piètre chasseur, j'accompagnais surtout mon père à la chasse.
Ah oui, d'accord.
Oui, voilà. Et un peu plus tard, aux États-Unis, j'accompagnais aussi un ami à la chasse en Nouvelle-Angleterre, dans les bois, dans les petits bois d'érable et d'oronces, voilà, pour chasser la gélinotte, oui. Mais j'ai jamais été, moi, un bon chasseur, vraiment.
Alors, je crois, vous nous avez donné des extraits, mais bon, tout ce livre, il y a là un regard quand même sur les animaux, qui est un regard d'une grande humanité aussi.
Oui, c'est sans doute pour ça que j'étais un très mauvais chasseur.
Oui. Oui, je m'en doute. Alors, dans ce dernier poème, vous parlez... alors, on retrouve aussi un de vos thèmes, là, c'est-à-dire la géopoétique.
Oui.
Puisque dans ce texte-là, vous parlez de la Louisiane, hein, c'est ça?
Oui, oui.
Voilà, la Louisiane, oui. Voilà. Donc, on va retrouver donc le germe sacré, qui est le poète qui peut se... s'inscrire donc dans ce mouvement de la géopoétique,
oui.
dont se revendiquait Kenneth Wright, hein, qui est disparu
oui.
il y a peu de
oui,
temps.
Parce que par hasard, j'ai beaucoup voyagé, effectivement, j'ai beaucoup vécu dans d'autres pays également, et tous ces pays où je note forcément des différences dans les façons de vivre, les façons d'être, quand même, si peu qu'on y reste longtemps, on finit par s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences, en fait, entre les gens, les humains, les animaux, les choses des différents pays.
Oui.
Voilà, oui. Ça, c'est ma géopolitique, oui.
Et c'est ce qui vous permet de retrouver aussi dans cette description, par les poèmes de ces paysages, de ces pays que vous avez traversés, qui vous permet de retrouver aussi l'universel. Et je pense à cette phrase de Jo Bousquet, hein, qui est notre poète de Carcassonne. Mm-hmm. Il faut qu'un homme soit tous les hommes, pour que le particulier soit en lui la source de l'universel.
Oui. Ben oui, oui, j'adhère bien à cette phrase, oui.
Et là, dans les, tous les pays, depuis l'Amérique, hein, quand vous parlez de l'Amérique, etc., le tour de l'Amérique, hein,
oui.
Un de vos premiers
recueils. Alors, hein. il faut quand même se méfier, il faut faire attention. Oui. On rejoint sans doute l'universel, mais il faut se méfier d'essentialiser hein, les pays ou les gens ou les animaux ou n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que tout en joignant peut-être quelque chose d'universel, pour que ça reste véritablement vivant, il faut garder très oui. concret le lien au particulier,
oui,
hein, à la singularité de chaque chose ou de chaque oui. être.
D'accord. L'individualité.
À mon sens, oui.
Oui, oui, oui. On va parler donc de ce recueil, une fin d'après-midi continuée. Là, vous avez écrit, je crois que c'est le postfacier qui le dit, vous avez écrit là aussi, comme toute votre œuvre, des poèmes très figuratifs.
Oui.
Alors, c'est peut-être ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, quand on lit Jambe sacrée, on accroche si vite, si fort, et qu'il y ait cette impression qui est tellement tenace. Et j'ai dit, ben oui, voilà, c'est parce que lui sait faire ça. Il sait écrire des poèmes qui soient très figuratifs et qui, en même temps, nous amènent dans les domaines de la pensée. Il y a les deux en même temps, je dirais, hein, très figuratifs et qui élèvent la pensée. De ces poèmes qui sont très figuratifs, en définitive, dans le concret, ils sont façonnés, ils sont sculptés dans le concret, dans le vécu, vraiment dans ce qu'il y a de trivial, des fois. Et en même temps, il se dégage de là une pensée, une espèce de pensée, une abstraction.
Je vous entends mal, là.
Oui. Ah, pardon.
Oui.
Une abstraction, c'est moi qui... On me fait signe que je ne parle... Comme j'ai le casque sous les...
Voilà, oui.
Je m'entends très fort et donc je baisse la voix.
Oui, là, je vous entends.
Alors, oui, je disais... que à la fois il y a ce détail du concret de faire ces poèmes très figuratifs, mais que le sens du poème est toujours un sens qui va dans l'abstraction de la pensée quand même.
Oui. Eh ben, bon alors le poème est me vient facilement de façon figurative parce que j'aime beaucoup écrire sur le motif et donc quand je suis devant un objet ou avec des gens ou dans un lieu particulier, toutes ces entités me donnent là de visu tout de suite du vocabulaire. Hein, si je suis devant un arbre au Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre, c'est un érable. Si je suis au Maroc, c'est un arganier ou je ne sais pas quel autre arbre, éventuellement un palmier, pas souvent. Voilà. Mais souvent, si je suis en Vendée, c'est un orme, plus maintenant, parce qu'ils ont tous été détruits par la maladie et par le remembrement, mais... mais il reste quand même dans mon souvenir, etc. Vous voyez, donc, la concrétude des choses est là, qui touche, qui produit des mots qui ont cet effet de figurer hein, les choses et les êtres. Donc, il y a forcément facilement ce côté figuratif. Mmh. Alors après, effectivement... dès que vous vous mettez à penser à la relation entre les mots et les choses, alors là, vous tombez tout de suite dans la réflexion, dans la rêverie, éventuellement, et ça devient beaucoup plus flou, beaucoup plus abstrait. Hein, c'est vrai. Donc, au final, j'ai un mélange de concret et d'abstraction qui font en quelque sorte le fond de la matière de mon poème. Oui.
Ça me fait penser à ce que disait, je vais le reciter encore, hein, il est de chez nous, là, Joe Bousquet. Oui. Il disait, c'est en 82 qu'il disait ça. Qu'est-ce qu'une idée intelligente, une idée secrètement inspirée de la vie? C'est exactement ce que vous venez de dire.
Ah oui, oui.
Hein, c'est...
Bon, je ne sais pas si mes idées sont intelligentes, mais elles sont. Elles prennent une source
voilà, directement inspirée de la vie.
Complétude des choses, oui. Oui.
Alors, une fin d'après-midi continuée, c'est trois livres marocains.
Oui.
Que vous avez mis ensemble. Alors, c'est un gros volume, mais c'est un très beau livre hein, que vous avez présenté donc, ici à Toulouse, hein, dans un moment merveilleux. Hein. Et donc, les éditions Tarabuste qui ont fait ce regroupement. Il s'agissait d'une fin d'après-midi à Marrakech qui avait été publiée chez André Dimanche
oui.
en 1988. Puis oui. Vienne, dit quelqu'un, ça c'était en 1996.
Oui. 1988, oui.
Oui. Vienne, dit quelqu'un, ça c'était en 1996.
Oui.
Et Un paradis de poussière en 2007.
Oui.
Voilà. Donc, ces trois livres sont écrits donc, dans la compagnie d'une une même personne. C'est votre ami Gil Ali
oui.
Charadi. Hein, c'est
oui.
un peintre avec lequel vous avez travaillé.
Oui, oui, avec lequel j'ai beaucoup voyagé et
oui.
qui...
Que vous avez
m'a certainement permis de, oui. d'être beaucoup plus près qu'autrement avec les paysages marocains, les milieux humains marocains, etc. Oui, oui.
Que vous avez rencontré là-bas, au Maroc.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord.
Oui.
Parce que, effectivement, vous vous adressez à lui, vous lui dédiez beaucoup de poèmes.
Oui, les trois livres oui. lui sont
oui.
dédiés, en
oui,
effet.
Oui, oui. oui. Bon, je crois que le mieux, c'est de vous écouter, déjà.
Oui, si vous voulez. Oui, je vais lire donc un premier ensemble d'une oui. fin d'après-midi à Marrakech, la première partie,
d'accord.
et qui s'intitule « Le monde s'écrit, on ne sait pas ce qu'il raconte ». Alors que la montagne emplissait de plus en plus le noir venant de la nuit, et la voiture allait plus vite à cause de la fraîcheur, il y a eu un dernier village, ces grands rouges en pisé sombre. On dirait l'alarme d'une joue dans le désir obscur du monde. Bien sûr qu'il faudrait connaître depuis longtemps ce pays pour en parler, pourtant. Ce moment de feu tendre avant la nuit, la voilà, m'a fait comme si dans le cœur me revenait une autre enfance, fragile mais colorée de confiance dans le noir brusque du temps. Aimer un pays, dit quelqu'un, mais te soucies-tu de son destin? Sans doute que non, sans doute que je comprends mal. Comment de la misère se mélange à des merveilles, comment ça s'en va un pays? N'importe lequel, celui auquel je pense. À des villages comme des énigmes que le temps use, et pas forcément des sourires à ces endroits les plus misérables. Comprendre un pays, est-ce que je comprends même le mien? L'aimer, c'est tellement une si fragile affaire. Oui, le bleu du ciel à Marrakech, quelques guenilles, c'est tellement savoir qu'on n'y comprendra jamais rien. La route s'en va dans l'ampleur du ciel et de la campagne, gros autobus de tous les jours qui emmène les gens, le paysage s'étend avec des endroits qu'on voit minuscules. Des fermes fortifiées dans les pentes, leurs couleurs sèches, elles touchent à la solitude, au soleil. La montagne dans la distance a de grandes rougeurs douces. Quelque chose de tendre et d'infini comme un accueil dans la politesse et l'indifférence. Le sourire le plus vrai brille entre l'éternité et le prochain tournant de la route. Faudrait-il, pour mieux comprendre, ne plus être un étranger? Rien de moins sûr. Est-ce qu'on ne voit pas venir de l'horizon silencieux la continuelle razzia de l'histoire et du vent? Mon voisin me raconte une vie de paysan qui sait faire aller son cheval dans les fêtes et sa misère dans le travail difficile et quotidien. Mais comprend-il mieux ce pays qui nous caresse avec son strict sourire? Le voilà qui descend, qui marche là-bas vers un endroit sans rien. Va-t-il pas rejoindre à la fin quelque chose qui ressemble à une ferme seule au fond de mon enfance? Soudain, je pense... À l'ombre de ces arbres, leur feuillage plus souple et grand, dans la pluie souvent. Autre sourire évasif, paysans de partout venus, personne sait d'où. Connaître un pays, sans doute, ces endroits d'orge coupés, des luzernes parmi les oliviers, c'est quand même pour le traverser dans l'ignorance. L'histoire comme un paysage trop grand. Tout le monde est un étranger dedans. L'autobus est-il pas ridicule avec l'air de familiarité qu'il prend pour s'en aller dans le ciel et la montagne, qui sont de grandes questions silencieuses? Un jour, dans la grande aridité du paysage, c'est vrai que disparaîtront des châteaux de terre et d'anciennes palmeraies vivantes. Faut-il se déprendre de nos cœurs trop confiants? Sans doute qu'il ne faut rien espérer de l'exactitude insensée de la mort, mais trouver de la vigueur en la dérisoire détresse. Mon poème est comme une casse-bas ruinée par le grand bleu du temps. Voilà.
Alors, il y a dans votre pérégrination, multiple d'ailleurs, au Maroc, hein, puisque vous parlez de Marrakech, vous parlez de Sidi Slimane, de Khénifra, bon, de petites bourgades aussi.
Oui, oui, oui.
Il y a, dans ce que nous disions tout à l'heure, ces réminiscences de ce que vous avez connu chez vous, en Vendée, oui. et qui n'existe plus. Mais que là, vous retrouvez.
Oui, en effet.
Vous dites, je retrouvais dans ce pays des chemins qu'on a détruits dans le mien.
Exactement.
Voilà. Bientôt, personne qui s'en souvient. Voilà.
Oui.
Là, on retrouve le style Jambes sacrées. Bientôt, personne qui s'en souvient. Hein. qui donne cette coloration merveilleuse, parce que là c'est, comment dirais-je, on voit l'oralité aussi du poème, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous murmure ça à l'oreille, quoi, en confidence. Hein. Bientôt personne qui s'en souvient.
Oui, voilà. Mais ben oui en oui. effet, je retrouve dans... Mais je retrouve, alors curieusement, je pourrais dire que je retrouverai exactement la même chose dans des endroits perdus des États-Unis.
Ah oui.
Hein, vous voyez,
oui,
exactement.
Oui, oui.
Mais au Maroc, c'est très présent parce que il m'est arrivé effectivement de m'arrêter dans le Moyen Atlas pour aller aider des paysans à attacher des gerbes avec un lien de paille, hein, comme je faisais autrefois dans mon enfance. Hein, où, au Maroc, c'est encore plus présent parce que, par exemple, quand vous êtes en plein cœur des villes, eh bien, vous rencontrez des tas de paysans qui sont descendus là des environs, hein, pour vendre leurs marchandises, apporter des tissages qu'ils ont fait eux-mêmes. Hein, vous voyez, il y a une présence d'un tas de choses dans les villes marocaines, même au plein cœur de Casablanca, vous trouvez encore des ânes, hein, des ânes qui travaillent, qui
oui,
tirent
oui,
une
oui.
petite charrette avec des melons jaunes, par exemple, dessus, ou des figues de Barbarie, hein, qui sont des choses, effectivement, qui ont complètement disparu maintenant, ou quasi complètement, sauf en des coins reculés, peut-être, de montagnes, de forêts, hein, qui n'existent plus en France, ouais.
Si vous voulez bien, on va poursuivre en vous écoutant.
Oui. Alors, j'aimerais lire une cadence de Viens dit quelqu'un, hein, qui décrit un mariage marocain dans un tout petit village près de Meknès. Voilà, et on y voit la parentèle qui arrive. Et on y voit les danseurs qui jouent du bindir, hein, qui est une sorte de tambourin. Hein. Et l'un des joueurs de bindir, là, est justement le père de cet ami marocain que j'ai, hein, et qui fait partie de l'équipe des joueurs pour faire danser les gens. Voilà. Alors, j'y arrive. C'est la cadence 24. La route s'est élevée dans les collines et c'est parmi le gris léger d'un carré d'olivier et quelques meules de paille qu'on voit soudain comme la plus belle féerie dans une fête du ciel et de la vie journalière à la campagne. La robe ouverte d'une tente blanche à motifs noirs. On y entre, après quelques pas sous les arbres, comme dans la robe d'une femme qui saurait tout le silence épanoui de cette journée d'été. Et dans l'intérieur de ces deux couleurs, capables d'une grande retenue construite, le blanc et le noir, on est en effet dans l'intimité de soie et de cuir très fin, des rouges et des roses, avec la belle fraîcheur des jaunes qui s'en vont par où on a relevé la toile sur un côté, se mêler à la lumière infinie de la campagne, on voit deux mules très loin et la douceur langue d'une pente. Dans cet espace organisé du bonheur, pour quelques jours, des gestes simples deviennent des rites, boire et manger, le silence assez. Parfois quelques mots dits dans une phrase très ramassée et sonore qui fait brusquement rire, mais de façon brève. Le silence en devient plus beau et la campagne encore plus vaste. La voilà comme de l'éternité montrée. La robe d'une fée qui n'est rien dans la solitude bleue du ciel. La paille et les oliviers manifestent que le seul monde ordinaire est là. On sait qu'il y a de vraies femmes pas loin. Tout à l'heure, on va chanter et danser, ça sera tard, et pour jusqu'à la dernière étoile visible. En attendant, on marche dans la nuit venue, parmi les paillers, pas loin des haies de cactus. Un cousin arrive à cheval, et quelqu'un d'autre se souvient. La campagne est comme une plus large tente, avec ses côtés relevés. On est bien, un peu dans la brise. Un autre cousin qui a des vêtements blancs et le sourire comme s'il était le sourire de la nuit raconte des fragments d'histoire de la famille, tel oncle dont le travail consiste à répartir les terres entre les gens de l'endroit selon d'anciennes façons de vivre en communauté, tel aïeul qui se laissait pas bousculer par l'administration des Français. L'histoire de la famille ou celle du pays, celle du monde? Est-ce qu'on est seulement dans une fête pour se faire plaisir un moment ou dans quelque chose de beaucoup plus ample? Les grands voiles doux de la nuit, les déchirures de l'amour et de la colère, l'histoire pas facile avec ses gestes d'effet dans ceux d'aujourd'hui. Tout à l'heure on va danser, ni pour oublier, ni pour vraiment comprendre, pour ajouter à l'histoire dans la nuit. La fête ressemble à un immense travail en commun. D'ailleurs, c'est dans la cour d'une ferme. La musique a des étoiles dans son bruit. Une façon de lever les bras dans le ciel pour tenir le bain d'ire et geste comme en avant de soi la même aisance portée à quelque forme extrême que dans l'arc surhaussé d'une cour silencieuse avec l'immensité de la nuit autour. Le groupe des musiciens attend les danseurs qui s'avancent, attend, et soudain, un mouvement de la musique les précipite à leur rencontre, geste plus haut encore, et les bandits tournent au bout des mains qui semblent les lâcher. Toute la nuit, les danseurs sont revenus, sans doute. Qu'il y avait dans leurs gestes et dans la durée de la danse plein de choses anciennes qui parlent de la rencontre entre l'homme et la femme, ou de la vie qui se noue dans la nuit du monde. Je ne suis pas là parce que je vais comprendre. Je suis là parce que l'un des joueurs de bandir qui a ce bel élan du corps comme s'il dansait avec la nuit m'a aussi te voir avec les autres, même quand on est avec les autres de la façon la plus intime. Et par la main l'autre jour pour traverser une rue à Meknès, pour traverser. Voilà.
Voilà. En vous écoutant, je pensais encore... Vous donnez vie au lieu aussi. Et c'est pour revenir sur Jo Bousquet, je l'ai vraiment associé en
je vous entends mal là.
Oui, je disais que Jo Bousquet dit par exemple « L'homme n'est l'homme que par la faculté qu'il a de donner la vie à un lieu ».
Oui.
Et vous, c'est ce que vous faites là. C'est exactement ce que vous faites.
Dans
ces trois livres, vous donnez la vie à des lieux.
Oui. Oui, là, alors, ce mariage, c'est un petit peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un chemin retrouvé qui a disparu dans mon propre village. Autrefois, on avait ce genre de mariage qui rassemblait toute la communauté du village et bon, il n'y avait pas les mêmes danses, rien, mais il y avait d'autres rituels hein, qui mettaient tous les gens ensemble un peu. Oui.
Et cela a disparu quand même. La modernité,
effectivement.
Oui. Il y a dans tout ce livre, dans tous ces trois livres rassemblés dans cette fin d'après-midi continuée, il y a ce message d'amour aux hommes aussi, hein, que vous nous donnez là. Hein.
L'amour... d'amour, c'est peut-être un petit peu fort, mais enfin, de ce message, cette envie, ce désir d'être autant que possible avec les autres. Oui. Autres, oui.
Donc il y a là, je l'ai lu comme un plaidoyer pour la confiance accordée aux hommes aussi.
Oui. De toute façon, l'écriture est un geste de confiance d'autant plus étonnante qu'on ne sait pas en quoi. Vous voyez, on ne sait pas ce que cherche le poème, ce qu'il veut vraiment. Et on continue d'écrire. Il y a là une espèce de mystère assez curieux qui est ce mouvement de confiance qui fait que vous continuez à écrire même si vous en sentez les limites ou les impossibilités de joindre, etc. Vous voyez, oui.
Je vais vous citer avant de vous demander... nous avons 5 minutes, me dit-on. Je vais vous citer, avant de vous demander, vous allez terminer sur une lecture, donc.
Oui. Hein?
Alors, ce que je voudrais citer de vous, c'est vous-même qui parlez de votre livre en disant, ces livres, donc les trois livres marocains d'une fin d'après-midi continuée, sont des gestes d'écriture qui ne veulent rien expliquer, qui veulent seulement rencontrer et continuer de s'étonner, heureusement ou pas, de découvrir et de se découvrir dans la compagnie de l'autre, qui est l'hôte, ce mot qui met superbement ensemble l'autre et le même. Je crois que là, tout est réglé.
Oui, c'est un mot merveilleux, en effet. Oui.
Voilà.
Bien, merci. Et pour répondre à votre dernière question, je vais vous lire un petit ensemble qui s'intitule « Les gens sont là, pas loin ». C'est tiré de « Un paradis de poussière ». Les gens sont là, pas loin. On arrive au bout des marchés, c'est, tout après les autres artisans, un endroit rude et plein de matériaux lourds, pas facile à manier, portes de fer, des câbles, avec des couleurs pas douces, un atelier, comme un désordre et beaucoup d'énergie dedans. Les jeunes forgerons qui sont là te donnent du sourire et l'allure vraie de leurs vêtements sur eux. La photo que j'ai faite parce qu'ils l'ont demandé dit maintenant ce que je n'ai pas su voir d'emblée. Quelque chose de très mesuré, sans qu'on l'ait expressément pensé. La façon posée des visages, les diagonales tendues en X dans le rectangle vide ou plein des portes. J'ai l'impression d'avoir photographié graffitis, chiffres et taches de couleurs dans les surfaces du métal nu, l'atelier comme en plein air d'un peintre ou d'un sculpteur. On est soi-même enclin à croire qu'on pourrait dresser un poème comme une de ces portes. Entre ce qu'on a regardé, cette rudesse et de la parole enjouée là-bas à tinérir, et ce qu'on voit maintenant sur la photo. Le marchand d'escargots s'est installé presque sous ma fenêtre. 10h30 qu'il est, 10h du soir, devant le bar à bière. Sans doute qu'il aura encore des clients, des gens. Prennent juste une petite coupelle de bouillon, sans se donner la peine de décortiquer les lumas pour les manger. On jette les minuscules coquilles blanches dans deux bassines en plastique bleu disposées de chaque côté du faitout en aluminium, lequel tient tout le milieu du plateau couvert d'une toile cirée blanche pour que le jus tombé se nettoie mieux. Dessous, il y a sans doute un fourneau qui tient tout le contenu du faitout chaud. Le marchand a tiré un pliant du bas de la chignole et le voilà qui attend. Placé qu'il est entre une cuisine ambulante à cet endroit tous les soirs et un de ces petits arbres à feuilles de frêne nacées dont je ne sais toujours pas le nom. On les trouve à divers endroits, les vendeurs de menthe. Là où je suis, accumulation de leurs voiturettes, avec des toiles bleues déchirées pas mal, les bouquets de menthe mis dessus, dessous, d'autres sont tenus au frais, sacs de jute mouillés. Tout ça devrait donner une forte impression de fraîcheur, mais comme si tout s'endormait dans la chaleur et le vent poussiéreux. À peine un cri pour vendre, pourtant, il y a bien toute une activité de marché dans cet espace rue et trottoir. maintenant allons dans l'après-midi qui passe. Plutôt, c'est une sorte de malaise que j'ai, comme de ne pas être là vraiment, de mal participer à ce mélange de vie pas facile et de couleurs vertes qui sont bons, alors qu'un vendeur qui s'est gratté longuement le cul tout à l'heure, accroupi dans ses pieds nus, roule avec énergie une poignée de sa récolte dans la double feuille d'un papier journal paquet qui tombe comme il faut juste dans la main du client. Voilà, merci.
Alors, on va peut-être conclure avec les derniers mots de Serge Martin, qui vous a écrit cette post-faste qui est vraiment... explique bien hein, tout cet ensemble.
Qui m'a fait très plaisir, hein, en tous les cas.
Alors, il dit, cet ensemble de j'aime sacré, qui fait un seul poème, offrirait, en fin de compte, une traversée des espaces, des corps et des paroles, tout comme Pasolini évoquait dans l'Arabia, un geste pur qui traverse les siècles, semblable à un vol d'oiseau au mouvement d'une vague. Et il vous cite,
et là oui, c'est... j'aimerais bien, voilà. En effet, mais voilà.
Alors vous dites-vous, j'aimais les oiseaux, les herbes, voilà que j'en parle plus. Tout ressemble de plus en plus à du silence, à des sentiments trop pétris de solitude. Comment c'est ton cœur à proximité du mien, dans un court moment de la nuit, pas loin des murs bas d'un quartier pauvre, à Sidi Slimane. Qu'est-ce qui précipite entre le plaisir à mes joues et ton visage que je tiens, une brusquerie de confiance et de vérité? Quelqu'un d'autre traverse le terrain vague où nous sommes. Qu'est-ce qui continue? Voilà. Alors, ce qui continue, c'est nous, avec, parce que le poème de J'aime sacré nous met en relation et nous traverse jusque dans ces silences, indique Serge Martin. Merci beaucoup, J'aime sacré. J'aime sacré, on rappelle les titres des livres. Des animaux sont avec toi depuis toujours. Illustration de Guy Galamusa, aux éditions Ancrage. Et J'aime sacré, une fin d'après-midi continuée, trois livres marocains avec une postface de Serge Martin aux éditions Tarabuste. Un très beau
merci
livre.
Merci beaucoup, Christian Saint-Paul.
360 pages, un très très beau livre qui ne vous coûtera que 22 euros. Voilà. à très bientôt, J'aime sacré.
Oui.
Merci beaucoup. Claude et moi, nous disons aux auditeurs, nous souhaitons aux éditeurs une très bonne semaine et nous leur disons à la semaine prochaine. À
18h30. Voilà, merci beaucoup.
Oui, oui.
Je crois que tout le monde fait cette expérience-là et que quand on ne la fait pas, j'irais jusqu'à dire qu'on s'illusionne un peu.
Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Comme on dit, se mettre à la place de l'autre est quelque chose quasiment d'impossible, quoi.
Oui, voilà. Je crois que quand on croit être avec l'autre, c'est qu'on invente l'autre à sa convenance, souvent, quoi.
Oui, c'est Sylvia Plath qui dit que les rapports des hommes entre eux sont plutôt œuvre de l'imaginaire.
Oui, ben, beaucoup,
oui. Je crois qu'elle a dit ça, oui. Alors, nous allons revenir. Des animaux sont avec toi depuis toujours.
Oui.
Il y a là, donc, votre familiarité avec les animaux, mais un regard que vous jetez sur les animaux, une contemplation des animaux. Alors cette contemplation, là aussi, hein, elle est parallèle à la contemplation du poème qui se crée.
C'est-à-dire, il y a toujours ça.
Hein.
Et ben oui, ça c'est peut-être qu'on pourrait me le reprocher.
Ah non, au contraire, surtout pas. Surtout, ne changez surtout pas ça.
Oui. Il est difficile d'écrire un poème sans penser à ce fait qu'on est en train d'écrire un poème, qu'est-ce que ça veut dire, où ça va, à quoi ça sert. Voilà. Hein. Donc, ça revient toujours à un moment ou à un autre pendant le moment d'écriture.
Oui. Il y a une interrogation permanente.
Oui, oui.
Il y a une interrogation permanente. Alors, dans ce recueil, des animaux sont avec toi depuis toujours. Hein. C'est une interrogation permanente sur la présence et le sens à donner aux animaux. Et cette interrogation, elle rejoint complètement l'interrogation sur le sens et la fabrication du poème, c'est-à-dire quel est le sens aussi du poème.
Oui,
Alors, il y a chez vous une grande familiarité des animaux qui est due au fait que vous avez passé votre enfance dans une ferme en Vendée. Alors, j'ai retrouvé, moi aussi, je passais les vacances dans une ferme de l'Ariège, dans les années 50, c'est-à-dire une époque où les fermes ressemblaient beaucoup plus à ce qui existait au 19e siècle. Il n'y avait pas de tracteur, par exemple. Ça n'existait pas, le tracteur.
Oui.
On allait labourer avec une paire de bœufs qu'on habillait, etc. J'ai connu ça. Et donc, c'est vrai que quand on a connu ça, on a un rapport avec les animaux, certainement, quand même assez particulier. Et moi, je me suis retrouvé là dans ce que vous dites, dans ce texte. Si vous voulez.
Oui, mais oui, on a un rapport. Bien sûr, on a un rapport. On aime les animaux. En même temps, on a des colères contre eux parce que il y a plein de choses qui ne font pas comme vous voudriez qu'ils le fassent. Par exemple, quand on laboure ou qu'on fait un autre travail, etc. Donc, c'est un rapport sans doute qu'on tire un petit peu vers l'humain parce que on ne sait pas très bien quel rapport les animaux eux ont avec nous. Hein. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans cette impression de familiarité qu'on a d'être avec eux, on s'aperçoit aussi très rapidement qu'ils nous échappent, qu'ils sont ailleurs, est-ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, on ne sait pas, etc. Donc voilà, c'est très instructif cette vie avec les animaux.
Oui. L'anthropomorphisme, il faut arriver à s'en dégager. Personnellement, je ne sais pas faire ça. J'ai tous les animaux que j'ai eus, je les ai considérés comme des personnes.
Ouais.
Parce que je ne sais pas faire autrement.
Ouais.
Et vous, en vous lisant, vous expliquez que bon, c'est un leurre, effectivement.
Je fais pareil aussi.
C'est un leurre tellement agréable. Hein. Moi, j'ai eu une chatte pendant 27 ans, elle est morte à 28 ans, j'ai eu à 1 an déjà.
Ouais.
J'avais des rapports avec elle qui étaient des rapports que je lui parlais sans aucune différence. Et même, je vais vous dire, j'ai 2 tortues maintenant, je leur parle pareil.
Aux animaux, souvent pareil. Hein, ils finissent par reconnaître un bruit qu'on fait en prononçant ce mot et peuvent y répondre, mais
le temps de la voix,
jamais très sûr, quoi.
Jamais. Voilà.
Ouais. J'essaie de ne pas trop leur parler, en fait.
Ah oui.
Mais d'être avec un peu, si je peux, quoi.
Oui. Ouais. Il faut les deux. Oui.
Oui.
Est-ce qu'on
voilà, vous voulez que je dise
voilà, on va
un
vous
peu
écouter.
De ces animaux-là,
on va vous
de
écouter.
Mots
oui.
Hein, voilà, hein, parce qu'effectivement, dans le livre, ce ne sont plus de vrais animaux, ce sont des phrases, ce sont des sonorités, etc. Voilà. Une première séquence, c'est « S'il t'accompagne vraiment », c'est pour répondre à ce que nous venons de dire. Oui. Dès que l'homme est là, semble-t-il, des animaux l'accompagnent. On ne sait pas si d'emblée dans la violence ou dans le vivre ensemble que permet l'indifférence. Et si quelqu'un dessine un bison à Lascaux, lequel accompagne mieux l'autre? Mais plus en amont, dans le temps, ces bêtes que les humains n'ont pas connues, qui n'existent plus, si le pas d'un dinosaure, ses façons de regarder, sont jamais dans nos jambes rêveuses, dans nos façons de voir le monde. Que dessine un peintre aujourd'hui avec des animaux qui l'égarent dans le mot forme et pas trop de couleur? Des animaux sont avec toi depuis toujours. Le chien Bob dans les parties de l'Aubraille. Si tu le suis ou le contraire un peu plus tard, les vaches, chacune avec son caractère, la tranquille Blanchette, la charmante, l'insupportable Muscadine, sa gourmandise, ses façons d'être Torah pour monter les autres, t'apprenais quoi en la voyant faire? Ardente, la jument, plaisir accru sur son échine, puis dans le noir de l'écurie, son œil si grand. Animaux familiers, comme soudain, si te voilà nu parmi eux, les vois-tu? leur museau tendu vers ton corps inquiet, qui se demande. Tu sais peut-être comment ton chien ou ton cheval vont répondre aux gestes que tu as, mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Les perdrix partaient toujours dans un brusque bruit d'ailes entre luzerne et le haut d'une haie. Mon fusil de piètre chasseur lâchait ses deux coups derrière l'envol déjà disparu. Me fallait surprendre les oiseaux piétant droit devant sur un chaume. Après le bruit du fusil, je ne ramassais que du silence. Les animaux que tu as connus, tu les appelais par leur nom, et les voilà qui arrivent, museau de cheval à la barrière, ou la lenteur des vaches venues du fond du pré pour s'en retourner à la ferme, le chien qui les accompagne comme tu lui dis de faire, la compagnie des animaux comme celle de tes élèves dans la cour de l'école, la compagnie des gens tous les jours, dans l'apparente familiarité de tout, l'apprentissage de la solitude. Parler des animaux, si c'est pas seulement parler, parler comme on parle tout seul, ni à soi ni aux autres, qui ça les autres, on entend quel goret gueulant parce que papa n'a pas su l'assommer, quelle chatte griffante après l'amour, quelle rumination lente pour écrire et remâcher un poème. On n'entend rien, parler, dessine des formes de mots. Je vais lire la dernière séquence du livre, ce qu'on écrase dans un livre. Le bruit que font les animaux dans le monde, meugler, hennir et braire, barrir, couiner, miauler, rugir, japper, gronder, etc., et tout le tintouin des oiseaux. Et l'animal à deux pattes, pas forcément gros cerveau. L'homme qui gueule, crie, parle, bavarde et pérore. Tout le bruit que fait le vivant du monde. Et ce poème qui s'ébroue dans son silence. Tant de voitures, de camions lui ont roulé dessus. Petite route de campagne, c'est juste en face d'une jolie maison de plantation en Louisiane. Grands arbres qui l'encadrent. Et la clôture basse en bois peint en blanc, le tatou mort n'est plus qu'un dessin de tatou gravé dans le bitume, un dessin de la vie gravé dans la mort. Il n'y a ni rêve ni rien dans cette empreinte qui fut dessinée sans que personne y pense, et dans le hasard d'une rencontre d'un animal avec la modernité humaine. On ne sait pas très bien non plus à quoi pense un poème, en racontant ce qu'il a vu, en racontant ce qu'il raconte. À quoi ressemblerait ma tête, mon allure d'homme, si mes bœufs dessinaient, en ruminant de la luzerne ou du foin? Animaux plus ou moins familiers, j'ai peut-être cru leur parler, je n'ai pas oublié les noms qu'on leur donnait, leurs gestes de peur ou comme de confiance, caresses, coups de bâton, tendresse ou colère contre leur silence.